Chapitre 1. Un immeuble gris massif, de 34 étages seulement, avec au-dessus de l'entrée principale les mots « Centre d'incubation et de conditionnement central de Londres » et, dans un écu, la devise de l'État mondial « Communauté, identité, stabilité ». L'immense salle du rez-de-chaussée donnait au nord. Froide malgré l'été, derrière les vitres et la chaleur tropicale entre les murs, une lame de lumière venue des fenêtres cherchait avidement un modèle anatomique sous sa housse, la silhouette blême d'un universitaire frigorifié, et ne rencontrait que le verre, le nickel et la porcelaine à l'éclat glacial d'un laboratoire. À l'hivernal répondait l'hivernal. Les blouses des employés étaient blanches, leurs mains gantées d'un caoutchouc cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantôme. Seuls les tubes jaunes astiqués des microscopes lui renvoyaient une substance riche et vivante, telle du beurre, encoulée alléchante, d'une paillasse à l'autre, jusqu'au fond de la salle. « Et voici la salle de fécondation !» annonça le directeur comme il en poussait la porte. Penchés sur leurs instruments, 300 fertilisateurs étaient plongés dans ce silence où l'on est étranger au monde, respirant à peine, fredonnant pour soi ou sifflotant, signe de concentration intense. Une cohorte d'étudiants marchait sur les talons du directeur, des petits nouveaux au teint rose et aux joues imberbes, intimidés à la limite de la servilité. Chacun était muni d'un carnet dans lequel il grattait furieusement, sitôt que le grand homme disait un mot. De la bouche même de l'autorité. C'était un privilège insigne. Le directeur de l'incubation et du conditionnement tenait tout spécialement à faire en personne la tournée des divers services à ses dernières recrues. « C'est simplement pour que vous ayez une idée générale, » leur disait-il. De toute évidence, il leur en fallait bien une, si l'on voulait qu'ils fassent leur travail intelligemment, mais la plus limitée possible si l'on voulait aussi qu'ils deviennent des membres de la société loyaux et heureux. Car les détails, chacun le sait, sont la base de la vertu et du bonheur, les généralités des mots nécessaires à l'intellect. Ce ne sont pas les philosophes, mais les collectionneurs de timbres et les bricoleurs du dimanche qui constituent la colonne vertébrale de la société. « Demain, » ajoutait-il en leur souriant avec une bonhomie où couvait la menace, « vous vous mettrez au travail pour de bon, et vous n'aurez plus de temps à consacrer aux généralités. En attendant... » En attendant, c'était un privilège. De la bouche même de l'autorité, directement consignée dans les carnets. Les jeunes gens griffonnaient éperdument. Grand, plutôt maigre mais bien droit, le directeur s'avançait dans la salle. Il avait le menton allongé et de grosses dents proéminentes que cachaient tout juste, lorsqu'il ne parlait pas, des lèvres charnues en forme de cœur. Jeune, vieux, 30 ans, 50, 55, difficile à dire. Et de toute façon, la question ne se posait pas. En 632 après Ford, l'idée n'en serait venue à personne. « Je vais commencer par le commencement, » dit le DIC, et aussitôt les plus zélés consignèrent cette intention dans leur carnet. « Commencer par le commencement. »« Voici les incubateurs, » dit-il avec un geste de la main, et ouvrant une porte thermiquement étanche, il leur fit voir des rangées serrées de tubes à essai numérotés. « Le stock d'ovules pour la semaine, maintenu à la température du sang, tandis que les gamètes mâles... » Il ouvrit une autre porte. Doivent être à 35 degrés et non pas à 37. C'est la chaleur du sang qui fertilise. Si l'on enveloppe les béliers dans de la laine de verre, ils cessent de se reproduire. » Toujours appuyé contre les incubateurs pendant qu'ils noircissaient des pages entières de leurs pattes de mouche, il leur donna une brève description du procédé moderne de fécondation. Il évoqua tout d'abord, comme il se devait, la première étape chirurgicale. « Le prélèvement subi volontairement dans l'intérêt de la société » mais qui s'accompagne tout de même d'une prime équivalent à 6 mois de salaire. » Puis il passa à la technique de conservation de l'ovaire excisé vivant, qui continuait de se développer. Il précisa la température, la salinité et la viscosité optimale. Il mentionna la solution dans laquelle étaient plongés les œufs isolés en voie de mûrissement. Enfin, conduisant ses ouailles devant les paillasses, il leur montra comment la solution était extraite des éprouvettes. Comment elle tombait goutte à goutte sur les plaquettes du microscope spécialement chauffé à cet effet. Comment les œufs étaient inspectés pour dépister toute anomalie, comptés et transvasés dans un récipient poreux. Comment ce réceptacle, et là, Il les emmena regarder l'opération. Était lui-même immergé dans une ébullition où des spermatozoïdes nageaient « à la concentration minimale de 100 000 au centimètre cube », souligna-t-il. Au bout de 10 minutes, le réceptacle était retiré du bain et son contenu réexaminé. Si l'un des œufs n'avait pas été fécondé, il était immergé de nouveau et ainsi de suite, autant de fois que nécessaire. Les œufs fécondés étaient replacés dans les incubateurs, où les alpha et les bêta demeuraient jusqu'à leur mise en flacon définitive, tandis que les gamma, delta et epsilon en étaient retirés au bout de 36 heures seulement, pour être soumis au procédé Bokanovsky. « Le procédé Bokanovsky !» répéta le directeur, et les étudiants soulignèrent ces mots dans leur petit carnet. Un œuf, un embryon, un adulte, c'est la normalité. Mais un œuf bokanovskisé bourgeonne, prolifère, se divise, de 8 à 96 fois, et chaque bourgeon, en se développant, va former à son tour un embryon parfait, lequel formera un individu à taille d'adulte. Ce qui veut dire que 96 êtres humains grandiront là où un seul grandissait jadis. Le progrès. En gros, conclut le DIC, la bokanovskisation consiste en une série de coups d'arrêt au développement. Nous bridons la croissance normale, et paradoxalement, l'œuf réagit en bourgeonnant. Réagit en bourgeonnant. Les stylos s'activèrent. Il tendit l'index. Sur une chaîne à révolution lente, une pleine étagère de tubes s'insérait dans une caisse en métal à mesure qu'une autre se présentait. Les mécanismes tournaient avec un ronronnement discret. « Les tubes mettent 8 minutes à accomplir un tour complet, » leur dit-il. « 8 minutes d'exposition intense au rayon X, un œuf n'en supporte pas davantage. Il y en a qui meurent. Sur le reste, les moins exposés se divisent en 2, la plupart en 4 et quelques-uns en 8. Tous retournent dans les incubateurs, où les bourgeons se développent, puis, au bout de 2 jours, sont soumis à une brusque chute de température, réfrigérés et examinés. 2, 4, 8, les bourgeons bourgeonnent à leur tour et, une fois bourgeonnés, reçoivent une dose presque létale d'alcool, le bourgeon bourgeonnant du bourgeon, après quoi on les laisse croître en paix, tout nouveau coup d'arrêt se révélant le plus souvent fatal. Dans le même temps, l'œuf original est en bonne voie de produire entre 8 et 96 embryons, soit, vous en conviendrez, un progrès considérable par rapport à la nature. De vrais jumeaux, mais pas par 2 ou 3, comme au temps ancien de la reproduction vivipare, où il arrivait qu'un œuf se divise fortuitement. Non, par douzaine, par vingtaine aujourd'hui. Par vingtaine, répéta le directeur en écartant les bras comme s'il faisait des largesses à ses auditeurs. Par vingtaine! Mais un étudiant eut la sottise de demander où résidait l'avantage. Mon cher petit, s'exclama le directeur en pivotant aussitôt pour lui faire face. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Il leva la main. Il avait pris un ton solennel. « Le procédé Bokanovsky est l'un des piliers de la stabilité sociale. » Pilier de la stabilité sociale. Des hommes et des femmes normés, par fournées uniformes. On pouvait faire tourner une petite usine avec les produits d'un seul œuf bokanovskisé.
96 jumeaux identiques qui travaillent sur 96 machines identiques.
On entendait comme une vibration d'enthousiasme dans sa voix.
« Là, on sait où l'on est, pour la première fois de l'histoire !»
Il cita la devise planétaire.
« Communauté, identité, stabilité !»
Mot grandiose.
« Si nous pouvions bokanovskiser à l'infini, ce serait la fin du problème. »
Il aurait été résolu par des gammas standards, des deltas invariables, des epsilon uniformes, des millions de jumeaux identiques, le principe de la production de masse enfin appliqué à la biologie.
Mais, hélas, il secoua la tête, on ne peut pas bokanovskiser à l'infini.
Le chiffre de 96 semblait indépassable. 72 représentait une bonne moyenne. En partant du même ovaire et du même gamète mâle pour fabriquer autant de fournées de jumeaux identiques que possible, on ne pouvait pas mieux faire, malheureusement. Encore était-ce difficile.
Car dans la nature, il faut 30 ans pour que 200 œufs parviennent à maturité. Or, notre tâche à nous est de stabiliser la population ici et maintenant. Produire des jumeaux au compte-goutte sur un quart de siècle, quel intérêt ?
Manifestement, aucun. Mais la technique de Podsnap avait fait faire un bond au processus de maturation. On pouvait compter sur au moins 150 œufs à maturité en 2 ans.